Radio Grand Ciel présente D'art et d'histoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. C'est avec joie que je reçois Martine Jones, présidente de la sauvegarde du patrimoine de Saint-Georges-Motède. Elle va évoquer pour nous son église et celle du village. Martine Jones, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors ce village, moi je ne le connais pas et j'aimerais bien que vous le situiez tout d'abord pour nos auditeurs et pour moi aussi.
Eh bien, ce village se trouve dans le sud de l'Eure, à peu près 5-6 km de Dreux, sur la route d'Annette.
Et c'est un gros village, combien d'habitants?
C'est un village d'environ 980 habitants maintenant.
Donc vous êtes presque 1000 habitants. Et c'est grand, quelle superficie?
4,7 km².
Voilà. Et alors, où se trouve-t-il? Y a-t-il des vallées? Situez-nous ce village, qu'on ait envie d'y aller.
Eh bien, écoutez, c'est la vallée de l'Avre qui entoure le village. C'est à côté de la forêt de Dreux. Donc, il y a de très jolis endroits à visiter, de très belles randonnées à faire.
Alors justement, l'Avre, c'est très joli comme rivière. Comment elle se situe dans le village?
Elle se situe à l'entrée du village.
Oui. Alors, je crois qu'il y a deux bras qui sont en fait très importants pour le village.
Absolument, puisque le village se trouve entre ces deux bras.
Voilà. Et en fait, il y avait un canal, je crois.
Il y a eu momentanément un canal, oui, qui maintenant n'existe plus.
Voilà, c'était...
Qui permettait de transporter les grumes, qui permettait de transporter le bois.
Oui, jusqu'à la Seine, en fait.
Absolument.
Donc, quand on en avait besoin pour les cathédrales...
Voilà, exactement. Et surtout que la forêt Dreux fournissait énormément d'arbres, d'ailleurs.
Oui, et alors peut-être c'est pour cela qu'on nommait ce bras Fausse Rivière, c'est ça?
Absolument.
Donc, un village qui m'a l'air très charmant.
Oui, qui a quand même une grande histoire aussi, avec des personnages importants.
Alors, on vous écoute quant à l'histoire.
Eh bien, écoutez, c'est un village sur lequel on a trouvé des pièces gallo-romaines. On a trouvé un dolmen à l'entrée du village. Et ce qui prouve, nous pensons, qu'il y avait une assez grande activité druidique à l'époque.
Ah oui. D'ailleurs, ce village a eu plusieurs noms.
Ce qui permet quelquefois des confusions quand on fait des recherches, parce que ce village est appelé Saint-Georges-la-Rivière, c'est appelé Saint-Georges-sur-Eure, et c'est appelé Saint-Georges-Motel, finalement, puisqu'il y avait à côté un fief qui s'appelait Motel, M-O-T-E-2-L-E, et qui est devenu Motel, M-O-T-E-L.
Alors, je crois même qu'au départ, au Xe siècle, il portait le nom de Sanctus Georgius.
Absolument.
Et donc, c'est un très vieux village.
C'est un très, très vieux village, en effet. Et d'ailleurs, nous situons l'église à peu près au Xe siècle.
Oui. Alors, on tend à confondre votre Saint-Georges et un Saint-Georges sur Eure qui est près de Chartres.
Absolument.
Et savez-vous pourquoi il y a eu ces deux Saint-Georges?
Je ne sais pas pourquoi il y a eu ces deux Saint-Georges.
Mais toujours est-il qu'on sait qu'il y a un Saint-Georges le Motel et un Saint-Georges sur Eure.
Qui sont maintenant totalement différents. L'un est dans l'Eure-et-Loire, l'autre est dans l'Eure.
Voilà. Alors, ce village a un peuplement, je crois, très ancien.
Il a un peuplement, en effet, très ancien, puisque des vues aériennes ont permis de retrouver des traces de l'époque gallo-romaine.
Oui, c'est ça. Et il y avait donc... C'était circulaire, alors il y avait
c'était
un enclos.
C'était circulaire. Et on a retrouvé des pièces aussi de l'époque. Donc, on sait qu'il y avait...
Des sites gaulois,
qu'il y avait une vie à l'époque.
On dit aussi qu'on a trouvé des pièces de monnaie.
Oui, absolument. On a trouvé des pièces de monnaie gallo-romaines.
C'est ça. Donc, vous avez dit un important centre druidique.
Oui.
Et puis, donc, la présence des gallo-romains. Ouais. Et alors, en 1104, on commence à parler de Saint-Georges. pouvez me dire un peu.
Oui,
plus.
Alors même avant, si
même
vous
avant.
Voulez.
Alors,
même avant, oui, dans un cartulaire de Chartres, nous trouvons la mention d'un bâtiment cultuel en 965.
Ah oui. Alors, les druides, alors, avaient déjà essaimé et on pense que c'est...
Absolument, puisque les églises ont souvent été bâties
et
sur des endroits cultuels qui étaient préexistants.
Oui, c'est ça, des sources peut-être.
Voilà, des sources, des endroits cultuels préexistants sous forme ou autre. Il n'y a pas de forme bien particulière à l'époque entre les dolmens aussi, etc., etc.
Alors donc, il y avait aussi, on a retrouvé un Carmel, c'est ça ?
Oui, mais qui a disparu. Qui a disparu, le Carmel qui existait il y a très peu de temps encore, était tout à fait autre chose. Le Carmel des débuts a disparu.
Alors vous évoquez les années du Xe siècle, 965-986, et donc il y avait un comte.
Oui.
Alors, parlez-nous de ce comte.
Alors, ce comte qui s'appelait au début Monsieur Landry, tout bêtement, enfin Landry.
Landry.
Landry,
oui.
A été fait comte de Dreux par les abbés de Chartres.
Oui.
Puisque à cette époque, si vous voulez, Saint-Georges-Motel était plus côté chartrain que côté évreux. Voilà, puisque les départements n'existaient pas, si vous voulez,
oui,
au point
de vue.
Voilà.
Oui. Alors, déjà, le comte Richard, en 1024, a voulu réunir les paroisses.
A voulu réunir les paroisses, oui. Je pense notamment, nous pensons, parce que ce n'est pas je, mais nous pensons, collecter la dîme.
Oui, oui, la dîme étant un impôt
voilà,
versé à l'Église.
Versé à l'Église. Donc, en réunissant les paroisses, si vous voulez, on augmentait aussi les dîmes.
Alors, c'est d'ailleurs le pape Honorius qui a confirmé en 1127 tous les biens de l'abbaye de Chartres et notamment votre
église,
église, Saint-Georges.
Oui.
Et un évêque, donc Ouin, va en 1130 régler le partage des revenus, c'est bien cela.
Exactement. Le pape Honorius confirma en 1127 tous les biens de l'abbaye de Chartres et notamment de l'église de Saint-Georges. Vers 1130, Ouin, évêque d'Évreux, régla le partage des revenus de l'église de Saint-Georges, qui s'appelait alors Saint-Georges-la-Rivière. En 1255, l'archevêque Eudes Rigaud, visitant les religieux du diocèse d'Évreux, fut hébergé par Emery de Musy, qui était alors seigneur de Motel, et qui, lui, en 1292, a affranchi les religieux de Saint-Père de Chartres et le prieuré de Saint-Georges des droits qu'il possédait.
Alors, c'est Jean de Pilliers qui va être dépouillé par les Anglais, et lui, il a eu deux fils, c'est bien cela?
Oui, il a eu deux fils, Ferdinand, qui, surtout Ferdinand, qui a créé vraiment la lignée de Pilliers à Saint-Georges-Motel. Et d'ailleurs, nous trouvons dans l'église de Saint-Georges son blason, qui est un blason très simple, comme toute la noblesse issue de la chevalerie.
Voilà, alors en 1590, eh bien, Henri IV va venir, et ça c'est quand même très important, va venir au château de Motel, il y coucha, et après, eh bien, est-ce qu'il y a eu des faits montrant passage d'Henri IV ?
Il y a, paraît-il, dans le château de Saint-Georges-Motel, la chambre où il aurait dormi, justement avant la bataille de ce qu'on a appelé ensuite Ivry-la-Bataille, guerre de religion,
oui.
Bataille qu'il a gagnée et durant laquelle il a prononcé cette fameuse phrase « Ralliez-vous
à mon panache blanc
». Exactement.
Très bien.
Et il a fait planter un orme sur une petite place du village, orme qui n'a été abattu qu'il y a à peu près 25 ans.
Donc, on est à peu près certain qu'Henri IV est bienvenu, l'arbre en témoigné, si je ne m'abuse.
Disons que nous avons envie de le croire.
Voilà. Alors, il y a eu aussi le comte de Menoux, qui est mort dans son propre château, donc le château de Motel, en 1742. Vous pouvez nous dire quelques mots sur...
Oui, alors le comte, la famille de Pilier, comme nous l'avons mentionné précédemment, était propriétaire du château de Motel, mais lorsque le fameux Ferdinand est décédé, il n'avait comme héritière qu'une fille.
Ah oui.
Donc cette fille a hérité de ses biens et elle a épousé Louis-François, comte de Menoux. Et ce sont les deux familles nobles qui sont restées le plus longtemps dans le château et dans le village de Saint-Georges-Motel.
Et est-ce qu'on voit encore sa pierre tombale ?
On voit absolument sa pierre tombale. On la voit dans ce qui est actuellement la sacristie. C'est une pierre tombale en ardoise. On suppose qu'elle a été posée dans la sacristie, mais qu'il était enterré, comme ça faisait beaucoup à l'époque, dans le cœur de l'église. On sait aussi que sa femme a été enterrée là. Elle est morte bien longtemps après lui, mais elle a aussi été enterrée dans l'église. Peut-être les deux piliers avant aussi, mais nous avons retrouvé des ossements, mais naturellement impossible de les dater.
Mais
par contre, pour le comte de Menoux, avec sa pierre tombale, nous le savons, et sa femme, qui n'a pas de pierre tombale, mais nous savons qu'elle a été enterrée dans l'église.
Et en fait, cette famille Menoux est restée longtemps dans
Oui, jusqu'au 19e siècle.
Oui, et quelle autre famille, après, a succédé ?
Alors, après, si vous le voulez, nous entrons dans une période qui est la période d'après la Révolution.
Oui.
Donc, les deux Menoux qui ont émigré, hein, qui se sont battus naturellement contre les révolutionnaires, n'ont pu récupérer leur château que grâce à une histoire assez intéressante. Mais enfin, disons qu'ils ont possédé le château jusqu'en 1820.
Oui.
Ce château a été vendu ensuite à la bourgeoisie riche, naturellement. Et la bourgeoisie riche a continué, naturellement Napoléon III, hein, Deuxième Empire, et se sont mariés ensuite avec des nobles d'Empire.
Voilà. Et ce château maintenant
Alors, ce château maintenant est occupé par une famille américaine. Avant d'être occupé par une famille américaine de Chicago, il était occupé par monsieur et madame de la Valdaine. Lui est un héros de la guerre de 14-18, un très très grand pilote, qui a passé d'ailleurs son brevet de pilote à 19 ans à Chartres.
Ah oui.
Oui. Et avant lui, par monsieur et madame Balzan. Madame Balzan étant née Consuelo Vanderbilt et ex-duchesse de Marlborough et recevait au château de Saint-Georges Winston Churchill.
Ah oui,
voilà.
Ah oui, il y a quand même des choses importantes qui se sont passées
dans
Saint-Georges.
Absolument, d'ailleurs nous avons des tableaux du château de Saint-Georges-Motel peints par Winston Churchill.
Oui, c'était un grand peintre.
Oui, absolument. Et il avait un ami peintre lui enseignait la peinture aussi, qui s'appelle Paul Maas. Et c'est très drôle parce que la petite fille de Paul Maas a épousé le petit-neveu de Winston Churchill.
Ah ben voilà. Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Nous sommes toujours dans l'église de Saint-Georges-le-Motel et nous sommes avec Martin Jones qui a évoqué dans une première partie son village et le château du village. Alors maintenant, j'aimerais bien que nous entrions dans cette église dont vous avez quand même beaucoup parlé. Comment est-elle ? Entrons s'il plaît pour que nos auditeurs puissent visiter avec nous votre église.
Notre église date, nous le supposons, du Xe siècle et nous sommes en train de faire des datations carbone pour absolument confirmer ou infirmer, nous ne l'espérons pas, sa naissance au Xe siècle.
Alors, elle a été quand même remaniée au cours des temps.
Absolument, elle a été remaniée au cours des temps et elle a suivi l'époque, si vous voulez, pendant la période de la guerre anglo-normande et ensuite les guerres de religion, l'Église n'a pas été embellie. Mais à partir de la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, dans une période de paix et de prospérité, l'église a été remaniée.
En même temps que le château d'Anet, c'est à peu près à la même époque.
Absolument, absolument.
Alors, comment sont les contreforts? Parce que les contreforts sont importants, là.
Oui, alors, les contreforts sont ceux qui, naturellement, nous indiquent que l'église est très ancienne.
D'ailleurs, la partie la plus ancienne, c'est la sacristie.
C'est la sacristie.
C'est ce qu'on appelle l'abside.
L'abside,
et vous
oui.
pouvez nous la décrire, parce que c'est assez intéressant.
Oui, alors, elle est toute petite, et elle est ronde, avec un toit en cul de...
En four.
Voilà.
La voûte en cul de four.
La voûte en cul de four.
Comme au XIe
voilà,
siècle.
Comme au XIe siècle. Et c'est là où se trouve d'ailleurs maintenant donc la fameuse pierre tombale dont nous parlions il y a quelques instants. Et il se trouve là aussi une Madeleine, une Marie-Madeleine, qui a eu la tête coupée et les mains coupées, mais qui est restée dans cette sacristie, qu'on Alors, appelle maintenant la sacristie, excusez-moi, voilà. L'abside.
Alors, voilà. Il y a aussi des murailles.
Oui. En silex.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et elles, enfin, ces murailles, elles sont un peu noyées dans le mortier.
Elles sont un peu noyées dans le mortier, ce qui est l'énorme problème actuel.
Pourquoi ?
Parce que le ciment empêche l'église de respirer.
Donc là, je crois que vous allez demander des subsides pour pouvoir faire des travaux à ce sujet.
Absolument, parce que l'église, donc, comme la plupart des églises, en 1950, 1960, ont été restaurés avec du ciment ou du béton et naturellement empêchant les pierres initiales de la construction de respirer. Et donc l'église se trouve être très humide et donc avec l'humidité, naturellement, il y a beaucoup de choses à réparer.
Alors, quand on arrive, on voit aussi une tour-clocher.
On voit une tour-clocher qui date du XVIIIe siècle, qui va d'ailleurs aussi être restaurée.
Alors, elle a un porche.
Elle a un porche. Elle a une cloche, naturellement, qui a un nom. Elle s'appelle Marie-Camille.
Oui.
Et pourquoi s'appelle-t-elle Marie-Camille ? Parce que la fille du propriétaire à l'époque, donc cette cloche a été fondée en 1834, la fille du propriétaire du château s'appelait Marie-Camille. Elle s'est mariée et est morte en 1834. Donc je pense que c'était pour l'honorer que la cloche a été nommée Marie-Camille.
Voilà, je crois qu'elle a été fondue en 1834.
En 1834, exactement.
Par Mahué de Dreux.
Voilà, Mahué était un grand, grand fondeur drouet. Bien qu'il ne fût pas originaire de Dreux, mais enfin, il a fondu beaucoup de cloches des églises du Drouet.
Alors, c'est une église qui a été bâtie en maçonnerie avec des angles en briques.
Avec des angles en briques et saillants.
Saillants. Alors, expliquez-nous comment est organisé le plan de cette église.
Eh bien, lorsque nous rentrons, il y a la tour, naturellement. Ensuite, il y a la nef.
Oui.
Alors, à gauche de la nef, il y avait, puisqu'il est en restauration, ils sont en restauration maintenant, il y avait des fonts baptismaux, fin 15e, début 16e, à double cuve, ce qui est une rareté.
Eh oui.
En pierre sculptée.
Et pourquoi double cuve ?
Eh bien, nous ne savons pas, c'est très rare.
Eh
voilà,
oui,
il y a eu deux, trois fonts baptismaux la région qui étaient à double cuve. Mais pourquoi à double cuve ? Nous ne savons pas.
Et personne n'a pu vous donner de Il y avait peut-être pour les filles et pour les garçons.
Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Ben, il y en avait une plus petite que l'autre de cuve, alors peut-être était-ce pour les filles.
Je ne sais pas non plus. Voilà un mystère que vous devriez...
essayer de résoudre, mais pour le moment, nous ne connaissons pas.
Alors, on disait qu'il y avait donc des contreforts avec des baies assez étroites, c'est ça?
Absolument.
Et alors, les autres fenêtres ne sont pas semblables? Elles ont donc été agrandies
Elles ont été agrandies à différentes époques, et notamment au XVIe siècle et au XVIIe siècle.
Oui, parce qu'il y en a qui ont des meneaux.
Absolument.
Et alors, peut-être expliquez-nous justement comment ont été organisées ces fenêtres.
Alors, si vous voulez, dans l'église, donc dans la nef de l'église, en effet, il y a des fenêtres à meneaux, qui font face aux vitraux.
Oui.
Hein, puisque nous avons dans l'église aussi deux vitraux classés.
Qui représentent
la première au-dessus des fonts baptismaux, la Dormition de la Vierge, École Chartraine, la première et la deuxième. La Dormition de la Vierge qui n'est pas terminée, et on suppose qu'elle n'a pas été terminée parce que le mécène, on suppose être le châtelain, n'avait sûrement plus assez d'argent. Donc il n'y a qu'une partie de la Dormition de la Vierge. Et ensuite, nous avons l'arbre de Jessé, qui est aussi d'école chartraine, et ce vitrail est entier.
Et alors, est-ce qu'il y a des fenêtres à meneaux?
Oui, il y a des fenêtres à meneaux sur la droite de la nef.
Oui. Expliquez peut-être pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce que sont les meneaux.
Qui sont des montants et traverses de bois, de pierre ou de fer,
oui,
qui traversent une fenêtre.
Et là, il y a beaucoup de fenêtres à meneaux?
Non, il n'y en a que deux.
Alors, nous pénétrons dans cette église et nous en arrivons au maître-autel. Le maître-autel est très beau puisqu'il est du 18e siècle.
Oui.
Alors, expliquez-nous comment est ce maître-autel?
Eh bien, écoutez, ce maître-autel, comme d'ailleurs beaucoup de choses dans le chœur, y compris les boiseries,
oui,
sont du 18e.
Alors, je crois que ce maître-autel est orné d'un au-devant d'un agneau mystique. Et il y a un tabernacle avec une porte qui est ornée d'un ostensoir, c'est bien cela?
Absolument.
Alors, il y a aussi au-dessus du maître-autel un tableau qui est somptueux.
Oui, il y a un tableau relativement récent, de 1970, qui a été apparemment fait par les rédemptoristes, mais nous n'en sommes pas certains, et qui aurait été commandé par Pierre Firmin Didot pour le mariage de sa nièce, et qui a eu lieu en l'église de Saint-Georges-Motel. Et c'est le dernier rapport moderne à l'église.
Oui, alors il y a aussi une statue de Sainte-Anne. Parlez-nous de Sainte-Anne, là. Alors, je crois que c'est Sainte-Anne qui est en train d'apprendre à lire à la Vierge.
La Vierge.
Et donc, cette statue de la Vierge est également très jolie. Alors après, il y a un banc d'œuvre. Ce banc d'œuvre, ce serait bien que vous puissiez nous en parler.
Oui. Le banc d'œuvre est au mur et est accroché derrière le banc d'œuvre. Il y a un arc qui vient de l'abbaye du Breuil-Benoît, qui est un arc en bois sculpté, qui date aussi du XVIIIe siècle. Et il y a une inscription latine qui dit « Voici le bois de la croix duquel le salut du monde dépend ». Et au-dessus, il se trouve les armoiries des abbayes de Saint-Pierre ou Saint-Père de Chartres, se trouve au-dessus de cet arc. Cet arc a été posé par monsieur et madame de Voise, qui étaient aussi des propriétaires du château, en présence du préfet de l'Eure de l'époque, en 1868. Mais cet arc venait de l'abbaye du Breuil-Benoît.
Ah oui.
Et qui n'est sûrement pas à sa place originale.
Ah. Alors, il y avait aussi un prieuré. J'aimerais bien que vous évoquiez pour nos auditeurs ce prieuré qui est à côté de l'église et qui est en fait une propriété privée.
Qui est maintenant devenue une propriété privée. Et près du prieuré se trouvaient avant aussi des cellules de moines. Et ces cellules de moines ont été détruites en 1911. Et le prieuré a été vendu à une fondation qui est la fondation Marshall, et qui s'occupait d'enfants leucémiques.
Ah oui.
Oui, les Marshall sont des Américains qui avaient un ami dont le fils est décédé à Saint-Georges-Motel et qui ont fait une fondation qui s'appelait la fondation de Marshall, mais qui vient de s'éteindre puisque personne ne peut reprendre la fondation. Et le prieuré se trouvait sur leur propriété.
Et en fait, ce prieuré était très important parce que je crois qu'en 1403, oui, il tenait la haute justice.
Absolument.
Sur Saint-Georges.
Saint-Georges avait en effet la haute justice momentanément.
C'est ça. Et donc, il bénéficiait de rentes. Ils avaient des.
Absolument. De toute façon, il bénéficiait de rentes car il ne vivait que de rentes.
Oui, c'est ça. Le sens, rentes, le droit de pêche, et le droit de pêche sur l'heure, ça devait quand même être.
Le droit de pêche sur l'heure était absolument important.
C'est ça.
Il ne pourrait plus exister maintenant.
Et il y avait beaucoup de possessions aussi.
Du prieuré.
Oui.
Oui. Donc, le prieuré avait une grande partie de Saint-Georges. Ils avaient des terres labourables, ils avaient des terres de pâture. Ils avaient aussi des terres à Montreuil. Montreuil étant à côté de Saint-Georges, mais englobé dans Saint-Georges à l'époque.
Oui.
Et ils avaient du bois, naturellement. Et donc, il recevait aussi la dîme des moulins. Il y avait beaucoup de moulins à Saint-Georges, oui, à cette époque.
Alors, ce prieuré, qu'est-il devenu, là, maintenant?
Alors, ce prieuré, donc, a été momentanément la propriété de M. et Mme Marshall, qui l'ont vendu à des particuliers parisiens.
Ah oui. Donc, maintenant, on voit juste la maison et...
On la voit à peine,
on la voit
à vrai
peine.
Dire.
Oui.
On la voit à peine, elle est entourée de murs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a là un souterrain.
Oui.
Et on ne sait pas où va ce souterrain. On sait qu'il est ancien, on a essayé de trouver.
Oui.
Il passerait peut-être sous l'église pour aller au château.
C'était souvent comme ça.
Voilà.
Ouais. Parce que souvent, le château communiquait avec l'église.
Communiquait avec l'église. Leur vie est inséparable l'une de l'autre.
Bien sûr, bien sûr. Alors, je sais que vous essayez de faire restaurer cette chapelle, cette église.
Oui.
Donc, en premier, ce que vous voudriez...
Alors, en premier, ce que nous voudrions, si vous voulez, et c'est d'abord que les gens soient très concernés par notre Église, autant que nous le sommes, et nous faisons appel naturellement à toutes les entités régionales, départementales, à des mécènes éventuels. Naturellement, nous travaillons avec la Fondation du patrimoine, nous travaillons avec la sauvegarde de l'art français, et nous essayons de faire, grâce à eux, revivre notre Église.
Eh bien, un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous réécouter sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci.